situation with American to learn the possible hijack?
The plane just landed.
What?
It's the 737.
It what?
Like the World
Trade. Who are you talking to? Oh God. Oh my God.
Un exemple de la confusion qui régnait d'ailleurs ce mardi 11 septembre 2001, jusqu'au plus haut niveau militaire. Il fallait que, sur les ondes de l'aviation militaire américaine, on fasse répéter à des intervenants que ce n'était pas un exercice. Valérie Beaudoin, bonjour.
Bonjour, Paul.
Étiez-vous bien jeune, Valérie?
Oui, j'étais vers la fin du secondaire, mais je me rappelle très bien quand même des événements. On nous avait même averti le matin quand les deux avions vont frapper les tours à l'intercom pour pas qu'il y ait de panique si des élèves étaient au courant de ce qui se passait.
C'est important ce que vous dites parce que j'avais mes deux fils étaient au secondaire aussi. Il y en a un qui était imperturbable. Ça ne l'a pas dérangé du tout. L'autre, le plus vieux, avait été grandement ému et touché.
Oui.
Et le lendemain, donc... Pour des jeunes qui regardaient ça, c'était l'incertitude en plus. On ne savait pas si ça allait se limiter à ce que nous avions vécu ce 11 septembre ou s'il y aurait d'autres attentats dans les jours à venir. C'était vraiment très inquiétant.
Oui, on se demandait est-ce que le Canada allait être une cible. Et je me rappelle les premières fois après avoir, quand j'ai pris l'avion, j'avais une crainte aussi. On avait cette peur. On semblait observer tout le monde autour de nous, savoir s'il y avait un danger, la sécurité qui était renforcée. Moi, je me rappelle de ce climat-là à l'aéroport, les premières fois que tu reprends l'avion après un attentat comme celui-là. Et je t'en parle et j'en ai un frisson parce que c'était un climat de peur, un climat de crainte. Et j'étais, je te l'ai dit, adolescente. Donc moi, je voyais ça d'une façon très impressionnante. Et ce l'était, ce qui se passait. Donc, il y avait cette peur aussi de ce qui s'en vient. C'est quoi ce nouveau monde? Hein? C'est là aussi qu'on s'est mis à s'intéresser beaucoup plus, je crois, à l'actualité, à ce qui se passait ailleurs dans le monde,
ouais.
En voyant qu'il pouvait avoir une attaque comme ça en sol américain.
Alors aujourd'hui, à New York, à Washington, mais également dans ce champ en Pennsylvanie, où s'est écrasé le vol United 93, près de Shanksville, il y aura beaucoup de représentants politiques, dont le président Joe Biden. Et là, on a su que Donald Trump également serait présent à New York.
Oui, c'est ça qui n'était pas clair au départ. On sait que Barack Obama va être à New York. Rudy Giuliani, l'ancien maire, bon, écoutez, un peu déchu aujourd'hui, mais qui était le maire de l'Amérique à l'époque, hein, qui était là quand il y a eu l'écrasement des avions, va être sur place. George W. Bush, qui était lui président à ce moment-là, va être justement en Pennsylvanie, oui, pour rendre hommage aux passagers du vol United 93, parce que c'est eux, pour rappeler aux gens, là, je sais que vous en parlez beaucoup à l'émission, mais on va quand même leur rappeler qui ont fait un acte tout à fait héroïque d'écraser carrément l'appareil pour empêcher qu'il se rende
froid
au Capitole.
En fait, je voudrais juste apporter une nuance,
oui.
C'est qu'ils ont tenté de prendre le contrôle.
Oui, voilà.
Valérie, de reprendre le contrôle. Mais les djihadistes, donc les pirates de l'air, ont volontairement pointé le nez de l'avion vers le sol pour tenter d'éviter qu'on reprenne le contrôle du cockpit.
Donc, imaginez la bataille qu'il y a eu à l'intérieur.
Écoutez,
des gens quand même extrêmement courageux qui vraiment ont voulu peut-être tenter de sauver, entre guillemets, la situation parce qu'ils étaient au courant. Hein. Les gens se parlaient au cellulaire dans ce vol-là. Ils étaient au courant qu'il y avait eu déjà un piratage d'avion. Donc, il va avoir plusieurs cérémonies. Joe Biden va se rendre aux trois endroits. Donc, il veut vraiment visiter les trois endroits. Et je vais te faire entendre dans un instant un extrait de Joe Biden parce que c'est pas prévu qu'il y ait de discours de sa part. Bon, c'est le président des États-Unis, mais on veut laisser la place aux victimes, aux familles des victimes qui veulent rendre hommage. D'ailleurs, ça débute ce matin à Ground Zero, donc à New York, où il y avait les tours jumelles du World Trade Center, où on va nommer chaque victime. Et c'est ce qu'on fait année après année, donc la 20e fois qu'on fait ça. Et Joe Biden, lui, a décidé de diffuser un message sur les réseaux sociaux pour rendre un hommage. Je te laisse entendre un extrait.
National Unity Bend. We learned that unity is the one thing that must never break. Unity is what makes us who we are, America at its best. To me, that's the central lesson of September 11th. It's that at our most vulnerable, in the push and pull of all that makes us human, in the battle for the soul of America, unity is our greatest strength.
Mais l'unité du pays, c'est aussi son plus grave problème en ce moment,
oui.
Valérie. Notamment dans la dissidence contre ces annonces de vaccination obligatoire. La COVID vient le rattraper là-dessus.
Oui, parce que Joe Biden, ça allait très bien le début de sa présidence. On se rappelle, écoutez, on promettait des doses, on en avait encore plus, la vaccination, ça allait bon train. Et là, le variant Delta est arrivé, les gens ont arrêté de se faire vacciner. À un moment donné, on a atteint un certain plateau aux États-Unis. Alors, non seulement on a demandé aux fonctionnaires de se faire vacciner de façon obligatoire, avec pas de possibilité d'avoir un test, c'est ça qui est important, là, un test, une mesure pour, disons, dire, bon, ben vous voulez pas vous faire vacciner, on va vous tester à toutes les semaines. Non, c'est plus possible. Pour les gens qui sont sous contrat aussi, la même chose. Et là où je vous dirais que ça dérange énormément, c'est les employés des entreprises de plus de 100 salariés où on dit qu'on doit les obliger à faire vacciner les employés et ou à faire un test de dépistage hebdomadaire. Donc là, on rentre dans l'entreprise privée et des gouverneurs comme celui du Texas, comme la gouverneure du Dakota du Sud, sont vraiment allés en disant « ça n'a pas de sens, c'est une dictature » et eux, ils veulent aller devant les tribunaux en disant que c'est inconstitutionnel. Et je dois te dire que, Paul, peut-être qu'ils auront raison parce que là, on s'en va dans le domaine privé. Est-ce que Biden a vraiment le droit? Ça va être un test, là.
Un grand test. Et un autre État qui pose problème, Valérie, un État qui, évidemment, est dans la contestation, c'est la Floride et son gouverneur, Ron DeSantis, qui est allé en cour, lui, pour empêcher les commissions scolaires de forcer les élèves à porter le masque.
Oui, et il l'avait même menacé, si on se rappelle, au début, et il l'a fait, il a dit « je vais couper les vivres aux écoles ». Il n'y aura pas de fonds qui vont être dans ces commissions scolaires-là si vous ne m'écoutez pas et si vous ne respectez pas ce que je vous demande. Et là, il y a eu des batailles devant les tribunaux. Hier, on a donné raison à Ron DeSantis, mais je peux te dire, Paul, que c'est pas terminé cette bataille juridique parce qu'au Texas aussi, on continue de se battre pour la même chose parce que le gouverneur Greg Abbott, qui lui est dans la controverse pour des dizaines de raisons, lui aussi veut la même chose. Il veut pas que les gens dans les écoles puissent imposer, on parle toujours du libre choix, donc les parents qui décident pour les élèves, mais il y a énormément d'étudiants, d'élèves qui sont touchés par la COVID.
Alors que le président, ce que vous nous avez fait entendre, Valérie, lance un appel à l'unité des Américains, on n'a jamais été aussi divisé, notamment dans la stratégie à adopter contre la COVID. C'est un sujet, là, mais évidemment, on ajoute à ça des sujets aussi importants que l'avortement au Texas. Mais c'est vrai que 20 ans plus tard, l'Amérique est beaucoup plus divisée qu'elle l'était en cette journée d'attentat en 2001.
Parce qu'au lendemain de l'attentat, rappelez les gens, là, dans les mois qui ont suivi, c'était un moment extrêmement patriotique. Les divisions politiques étaient vraiment moins présentes. C'est revenu un peu avec quand il y a eu le débat pour est-ce qu'on va en Irak ou non. Là, on a revu les divisions partisanes. Mais au tout départ, l'Amérique pleurait ensemble. George Bush était rassembleur. Si on se rappelle, le discours là, quand il était sur les piles de débris du World Trade Center avec son mégaphone, vraiment, c'était un sentiment d'unité. Les gens voulaient être américains, voulaient prouver qu'ils pouvaient se remettre de ces événements-là. Mais aujourd'hui, on a peut-être soit la mémoire courte, on a changé, je ne sais pas comment le qualifier.
Mais il est arrivé tellement d'événements et aussi, la campagne, la guerre en Afghanistan qui a duré 20 ans, l'invasion de l'Irak, qui a été une erreur épouvantable des Américains quelques années après. Valérie, en terminant, et ça c'est bien ça, Catherine Huet a réussi à retrouver le document dont je vous ai parlé, et c'était des Québécois qui étaient au pied de la Tour Sud. Donc, ils savaient que la Tour Nord avait été frappée à 8h46 et à 9h03, ils sont sous la Tour Sud. Alors, ils filment la Tour Sud en voyant évidemment le panache de fumée qui se dégage de la Tour Nord. Et ils ont capté l'arrivée absolument tonitruante, c'est le moins qu'on puisse dire, du vol de United qui allait frapper à 9h03 la Tour Sud. Le bruit, le son, l'image. Et Radio-Canada et Louis Lemieux, qui était en reportage, avaient commencé à diffuser cet angle-là. Mais aucun réseau américain n'avait obtenu ces images qui ont été tournées par Luc Courchaine. Évidemment, on est à la radio, Valérie. Je ne peux pas vous montrer les images. Mais écoutez bien le son.
As-tu vu ça? On rêve-tu ou quoi?
Alors, je me suis toujours rappelé de ça. Peut-être pas mot pour mot, mais je disais, je rêve-tu, moi, mais on rêve-tu? Ils étaient abasourdis parce qu'ils venaient de tourner ces images-là. Et évidemment, c'est absolument saisissant. Et ce ne sont pas des images qu'on a revues très souvent par la suite.
Non, et je ne sais pas si les gens ont regardé les différents documentaires, émissions qui sortent, là, et moi j'ai regardé celui, je crois que Paul, tu l'avais vu aussi, ou tu avais l'intention de le voir, là, celui sur Netflix,
ouais.
Sur les attentats du 11 septembre, ouais. Les images, il y en a que je ne me rappelle même pas avoir vu à l'intérieur des commerces, quand les gens s'enfermaient, on voit la boule de fumée, de débris, et on dirait que c'est l'apocalypse. C'est pour les gens, là, si vous intéressez à l'histoire du 11 septembre, il y a des spéciaux partout à la télévision américaine aussi, au
Canada. Thérèse me soulignait tout à l'heure que Télé-Québec va diffuser, c'est ce soir, Thérèse,
ouais.
Le vol United 93.
Oui, à 22h, United, vol 93, et c'est le fameux film fait en 2006, par Paul Greengrass. Et écoute, c'est un film, je me souviens, moi, d'un détail de ce film-là, c'est que c'est très, très efficace parce que c'est la reconstitution, en fait, des 90 minutes de ce vol-là en temps réel, pendant lesquelles les passagers ont vu leur avion détourné. Et ce film avait été fait avec la collaboration des familles et des victimes. Donc, c'est pas une fiction, c'est plus une reconstitution, ouais. Mais elle est terriblement efficace. Il y a une raison, c'est que ceux qui jouaient les passagers et ceux qui jouaient les terroristes ne se sont jamais rencontrés pendant le tournage du film pour qu'on garde entre eux quelque chose de difficile sur le plan humain et relationnel sur le plateau.
Donc, c'est ce soir.
Oui, ce soir, 22h, à Télé-Québec.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Salut, Valérie.